Et deux invités ce matin au micro d'Alpin dans le 8:30, Daniel Racanière, bonjour.
Bonjour.
Et Christophe Rosanvallon, bonjour.
Bonjour, Cyril.
Vous êtes tous les deux co-réalisateurs des éclaireurs de la résistance eau alpine. C'est un documentaire fiction qui est en train d'être tourné. Qu'est-ce qui vous a motivé à tourner autour de la résistance eau alpine? Daniel Racanière, tout d'abord.
Eh bien, ce qui nous a motivé au départ, c'est qu'on a fait un premier constat, c'est que la résistance aux alpines est très mal connue dans les Hautes-Alpes. Il y a beaucoup d'amalgames, donc on s'est dit que ça serait bien de retraduire, plutôt que de rester sur des anecdotes, de refaire une chronologie de l'histoire des Hautes-Alpes. Mmh. Et du coup, ça permettra à chacun de revoir la Grande Guerre, la Seconde Guerre mondiale plutôt, à travers le prisme de l'histoire locale.
Pourquoi elle est mal connue, cette résistance alpine? Pourtant, quand on parle de résistance, on a l'impression de tout connaître.
Elle est mal connue parce que ça a été beaucoup secret. Il y a eu beaucoup de choses secrètes qui ont été gardées secrètes. Il y a eu un prêtre qui a écrit des choses là-dessus, mais c'est resté quand même de manière très présenté de manière anecdotique sur la résistance, qui était le père du Chamblot. Qui a été, dès 44, relevé à chaud des informations sur le terrain pour avoir au moins une mémoire de la résistance. Mais dans les écoles, dans tout ce qui est le système éducatif, on parle de la Seconde Guerre mondiale, mais jamais de ce qui se passe au niveau local. Ce qui fait que les gens font obligatoirement un amalgame. Par exemple, Jean-Marie Guillon va vous le dire, le débarquement de Provence a été occulté par le débarquement de la Normandie.
Oui, voilà. Ouais, mais pourtant c'est vrai qu'on en parle beaucoup et en ce moment notamment en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Christophe Rosanvallon, pourquoi vous vous êtes intéressé à ce grand passage de l'histoire et notamment l'histoire locale?
Pour paraphraser Daniel, le but pour nous, ce n'est pas de faire un travail d'historien. Mais par contre, effectivement, d'éclairer les mémoires et de simplement expliquer aux jeunes générations d'aujourd'hui qu'il y a des événements qui se passent aujourd'hui dans l'histoire française, politique, qui peut-être ont des ressemblances avec cette période. On retrouve des similitudes. Mais nous, notre travail, c'est vraiment de permettre à tous ceux qui vont voir ce document de participer à des débats. Ça, pour moi, c'est essentiel. De manière à ce que des gens puissent apporter leurs souvenirs, des photos. Oui. On en récupère beaucoup d'ailleurs, là, grâce à ce tournage. On a la chance d'avoir accès à des documents privés qui ne sortent pas de chez les gens d'habitude. Et puis là, ils ont accepté. Alors peut-être parce que mon grand-père fait partie des gens qui ont participé à cette période. Ça nous a un petit peu ouvert des portes, mais aussi parce que les gens ont envie de parler. Et si c'est mal connu, c'est aussi parce que l'histoire et le temps surtout a fait son travail, et il y a des choses qui sont un petit peu déformées.
Transmission orale a un peu déformé aussi la grande histoire.
Ouais, un petit peu, mais c'est surtout qu'à l'époque, c'était tellement secret, il ne fallait absolument pas qu'il y ait de traces de tout ce qu'il faisait.
Toujours un tabou d'ailleurs, est-ce que vous l'avez perçu au fil de votre travail? C'est toujours un tabou cette...
Y a plein de gens qui ne veulent pas en parler. Ouais. Moi, si je prends l'exemple de mon grand-père, qui est mort il y a une vingtaine d'années, chaque fois qu'il me racontait un événement, que j'avais pu voir dans Maquisard et Gestapo de l'abbé du Chamblot, chaque fois que je lui demandais de me raconter un fait qu'il avait vécu, au bout de 2 secondes, il pleurait, il s'étouffait dans ses sanglots, et c'était encore à vif. Et surtout, pendant quelques années, ils avaient tellement appris à se taire que c'est resté assez mystérieux. Il y a plein de domaines dans lesquels on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Alors, heureusement que l'abbé du Chamblot a fait un travail de journaliste à la demande des frères Guy Bourribeau. Il est parti avec son vélo et pendant plusieurs mois, il est allé à la rencontre des personnes pour essayer d'avoir des anecdotes. Oui. Et moi, je trouve que ces témoignages-là de l'abbé du Chamblot, l'abbé Richard, ils sont hyper importants parce que c'est un peu les seuls témoignages qu'on a, comme disait Daniel, à chaud à l'époque. Et ça, pour moi, ça a beaucoup de valeur.
Daniel Acanière, vous avez aussi perçu, vous percevez toujours le fait que c'est toujours une plaie béante?
Oui.
Dans les familles.
C'est toujours assez émotif. Quand on parle avec les gens, quand ça sort de l'anecdote, les gens plongent dans une certaine émotion. Et c'est encore aujourd'hui, il faudra encore attendre une génération pour que le débat sur le sujet soit beaucoup plus apaisé. Et c'est vrai que nous, on va pas pouvoir parler de tout le monde, parce que là, actuellement, on nous dit oui, mais si vous parlez de lui, il faut aussi parler de lui, de lui, de lui. En une heure et quart.
Alors, vous avez choisi qui, hein, parce que ce sont des personnages qui sont réels. Ils ont existé. Vous allez retracer justement, notamment le vécu. Qui avez-vous choisi dans ce documentaire fiction?
Alors, on a choisi des personnes qui peuvent parler aux nouvelles générations, qui sont des jeunes qui étaient des artisans et des jeunes issus du monde agricole. Et ces jeunes-là, dès 1936, vont s'interroger sur la crise économique et les difficultés de leur entourage, de ce que vivaient les gens dans leur entourage, et notamment les ouvriers agricoles qui venaient l'hiver à Gap pour trouver du travail et qui n'en trouvaient pas du fait de la crise économique qui perdurait depuis 1929. Donc, les jeunes apprentis qui vivaient dans des conditions déplorables pour apprendre un métier et qu'on ne leur apprenait pas ce métier. Ils étaient plutôt là pour balayer, etc. Et ils étaient logés dans des conditions déplorables. Donc, on s'est intéressé à ces jeunes parce qu'ils vont avoir un regard dès 1936, mais pas qu'un regard, parce qu'ils vont essayer de mettre en place des actions. Et c'est ça qui est intéressant.
C'est un groupe de jeunes qui s'engage, on va dire, un engagement presque politique pour développer le territoire au niveau agricole. Et qui va donner lieu, en fait, finalement, à ce que... Parce qu'on a l'impression un petit peu qu'en 1936, le nazisme, on en parle, mais on n'en parle pas chez nous. On n'en parle pas forcément en France. Et ça, c'est pas vrai. C'est ce que vous m'expliquez, hein, juste avant cette interview. Non, à cette époque, justement, ce groupe de jeunes s'intéresse à ce qui est fait ailleurs. Et ce qui est fait ailleurs revient ici, et notamment, en fait, cette inquiétude.
Oui, cette inquiétude. Alors, à l'époque, c'est vrai qu'on a très peur partout en France, mais pas qu'en France. On a très peur du bolchevisme. Et donc, tout le monde pense que l'Allemagne va faire une barrière, va être un rempart contre le bolchevisme. Donc, quand ces jeunes commencent à vouloir mettre en place des actions pour protéger leurs congénères, ça va être très mal vu. Parce que tout le monde pense que c'est les rouges qui viennent, c'est les communistes qui vont arriver. Et donc, ils vont être obligés, ils vont essayer de trouver des astuces pour améliorer leur quotidien. Donc, il y en a un qui va partir, Marcel notamment, va partir à Paris, dans des communautés religieuses au départ, mais après ça évolue. Et puis, il va aller du côté de Clermont-Ferrand. Et il va voir que là-bas, il y a des choses qui se mettent en place, notamment autour du retour à la terre. Parce que le retour à la terre, eux, ils se disent, si la population manque, n'a pas assez de nourriture, il faudrait pouvoir nourrir ces gens. Avec l'exode rural qui s'est fait auparavant, eh bien, ils peuvent pas, on peut pas nourrir tout le monde. Il faudrait qu'il y ait des gens qui reviennent à la terre. Et donc, ils se disent, on va implanter ça à Gap.
Qui viennent s'installer.
Qui viennent s'installer dans le territoire haut-alpin pour pouvoir, se remettre à la terre. Donc, faire revenir des citadins.
Et des citadins qui reviennent, des intellectuels qui viennent ici et qui parlent justement du nazisme, qui parlent de ce qui se passe ailleurs.
Oui, alors, ils vont s'implanter notamment, ils vont créer des réunions, on appelle ça les réunions de Saint-Léger-les-Mélèzes, Saint-Léger pour Saint-Léger-les-Mélèzes. Et donc, là, ils vont essayer ils vont mixer les populations. Ça, c'est ce qui est très intéressant. Parce qu'ils vont faire venir des philosophes, des mathématiciens renommés, des jésuites, des paysans. Ils vont mélanger tout le monde et pour essayer de montrer comment on revient à la terre, pour essayer d'accompagner les gens. Et ce faisant, ils vont apprendre eux aussi par le biais des intellectuels qu'ils font venir. C'est-à-dire, il y en a qui sont allés en Autriche, qui ont vu comment les Allemands traitaient les Juifs autrichiens. Ils ont aussi lu Mein Kampf. Donc, il y en a qui vont alerter et qui vont dire, attention, ce qui se passe aujourd'hui en Autriche, de toute façon, ça va venir en France.
Donc, les Hauts-d'Alpes se sont déjà préparés à la résistance. Ce groupe de jeunes, au final, est devenu un vivier de résistants.
Voilà. Tout de suite, à la libération, après la débâcle, très rapidement, ils vont rentrer en résistance et ils vont l'appeler une résistance spirituelle, mais en réalité, ils vont infiltrer les administrations. Y en a qui vont aller dans les mairies, ils vont avoir un poste de responsabilité d'adjoint de maire. D'autres vont infiltrer, vont prendre le MRP, qui est le mouvement de résistance paysanne, de restauration paysanne, excusez-moi. Il y en a d'autres qui vont renouer les contacts avec les, avec la poste, parce que ça aura un grand intérêt par la suite. Voilà, il y a beaucoup de gens comme ça qui vont s'installer tout de suite dans les administrations.
Cette résistance, comment vous la qualifieriez justement, cette résistance aux Alpines ? J'ai trouvé donc la carte hein, de la résistance dans les Hautes-Alpes. C'est une carte où on peut voir où il y avait des maquis, où il y a eu des combats. Partout, finalement partout dans le territoire haut-alpin, il y a eu des actes de résistance, des maquis qui se sont implantés. C'est un territoire qui a pris sa part dans la grande histoire.
Oui, tout à fait. Contrairement à ce qu'on pense, les Hautes-Alpes n'étaient pas si isolées que ça, parce que notamment par le biais de Paul Hérault, les Hautes-Alpes ont été très rapidement en contact avec le SOE britannique. Donc, ils ont été vraiment rapidement en contact avec ça. Et ils ont été aussi... il faut savoir qu'AGAP a été édité sur les presses de manière clandestine une conférence qui a été donnée en novembre 40 à New York par un philosophe qui s'appelle « À travers le désastre ». Et c'est AGAP qui a été édité la première... ça a été la toute première édition.
Chez les frères Guibaud-Ribaud.
Et chez les frères Guibaud-Ribaud.
Et de manière clandestine dans la cave, quoi.
Ouais. Et donc, c'était intéressant parce que Jacques Maritain dénonçait point par point une défaite trop rapide, une armistice trop rapide. Mmh. Et donc, il mettait il qualifiait, si vous voulez, les décideurs de trop défaitistes. Mmh. D'ailleurs, qui n'avaient pas tenu compte de la bataille des Alpes, qui avait été victorieuse à ce moment-là, en plus.
Mmh. Voilà. Christophe Rosanvallon, vous qui êtes donc également le co-réalisateur, des scènes de reconstitution vont être tournées. Vous avez choisi forcément des communes particulières par rapport à ces pans d'histoire ?
Alors, pas tellement les communes, parce que les lieux ne sont plus visitables ou ils ont été détruits. En revanche, pour nous, il y avait des lieux emblématiques, comme le château de Montmort, où Antoine Mauduit et Lachaîne ont vécu, ont été créés et ont vécu, mais aussi, comme vient de le dire Daniel, au château de Saint-Léger-les-Mélèzes, lorsqu'il y avait ces fameuses réunions. Au tout début du mois de novembre, il va y avoir... on va tourner dans toutes les scènes de maquis qui vont être reconstituées. Effectivement, ça va durer 3 jours. Et on va le tourner dans le Briançonnais parce qu'il y a l'association avec Patrick Lemaître qui fait que on a beaucoup de matériel.
On a interviewé un grand collectionneur.
Voilà, quelqu'un qui est un grand collectionneur et nous on a besoin des gens comme ça. Et donc j'ai dit aussi qu'au château de Saint-Léger-les-Mélèzes, il va y avoir une journée entière qui va être dédiée à la vie sur place de ces fameuses réunions qui étaient très joyeuses et qui étaient avant la guerre. Mais il y avait cette envie de réfléchir ensemble, de se retrouver. Il y avait des hommes, des femmes. C'est important de dire les femmes, parce que nous, dans notre travail aussi, on veut resituer le rôle de la femme à cette époque-là, qui aujourd'hui n'est pas, à mon avis, totalement connue ni reconnue, alors qu'elles avaient elles faisaient des actes très concrets, elles prenaient vraiment des risques, et elles ont contribué à ce qui s'est passé après, au moment où Paul Hérault est devenu quelqu'un d'incontournable, qui a fédéré les maquis, et ça, pour l'histoire... qui est raconté par Jean-Pierre Pellegrin, par exemple, dans son livre sur Paul Hérault, on se rend compte à quel point ce haut alpin a fait un travail considérable et qui a été reconnu par Londres.
Et c'est vrai que les femmes ont été très longtemps présentées comme contributrices à l'effort de guerre, mais pas forcément contributrices à l'effort de résistance. C'est bien de le dire également. Quand on dit documentaire, fiction, c'est pour quelle partie ?
Alors en fait... Daniel et les historiens font une chronologie qui va donc être lue par une voix de comédien et qui vont s'appuyer sur des documents, des photos, des objets, différentes choses qui vont nous permettre, ou des images de paysages qui vont nous, ou de lieux qui vont nous rappeler l'histoire chronologique. Mais pour qu'on puisse s'attacher aux personnages, pour qu'on puisse vraiment comprendre ce qui s'est passé, on fait des reconstitutions, quelques-unes. Mais c'est un sacré travail considérable. Par exemple, le château de Saint-Léger-les-Mélèzes pendant une journée, ou les maquis. mais on va aussi reconstituer un magasin, on va reconstituer...
Avec des jeunes. C'est important de le dire aussi, les jeunes participent aussi à votre
Les jeunes participent, et nous, ce qui nous intéresse, c'est aussi de resituer l'âge des personnes, puisque, on le disait tout à l'heure, en 1936, ils avaient 19-25 ans, ils avaient des opinions politiques et ils passaient à l'acte. Le fait de se réunir, de trouver des fonds pour créer le relais, fallait avoir l'idée, il fallait être opératif, c'est pas simplement de la spéculation intellectuelle.
Vous avez mis dans la boucle les lycées Sévigné et les lycées Poutrin, des lycées professionnels. Ces jeunes, justement, comment ils perçoivent ces actes de résistance quand ils viennent avec vous pour tourner?
Ça fait partie de nos missions, c'est-à-dire qu'on a eu très vite envie d'associer des lycéens professionnels, donc le lycée Poutrin dans le Champsaur et le lycée Sévigné à Gap, parce que déjà, ils avaient des réflexions qui étaient poussées à ce niveau-là avec les profs. Mmh. Et pour nous, c'était intéressant de les intégrer à la fois à la partie technique, comment on réalise un film, comment on écrit des scènes. Et puis, on les a tournées avec eux, carrément, ces scènes. On les a montées et ça fait des exercices concrets. Mais maintenant, y en a plusieurs qui vont venir sur le tournage, qui vont être des figurants, des profs même qui vont être des figurants. Nous, on a vraiment envie de s'adresser à cette jeune génération parce que ces résistants de l'époque, qui ne s'appelaient pas du tout comme ça, qui faisaient des actes vraiment courageux, mais qui étaient absolument pas, qui ne se considéraient pas du tout comme des héros, même s'ils s'appelaient Paul Héros. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de dire ils avaient des convictions, ils étaient attachés à la liberté et à la République française et ils refusaient absolument le nazisme.
Ne soyez pas fataliste. Ne soyez pas fataliste au final, c'est un peu le message que vous voulez envoyer aux jeunes.
Et oui, parce qu'aujourd'hui, on fait le parallèle entre ce qui se passait avec la radio, les radios qu'on pouvait écouter sur les fameuses radios, là, où on changeait les fréquences. Il y avait Radio Paris, il y avait Radio Londres. Ben, aujourd'hui, avec les fake news, avec ce qui se passe soit aux États-Unis, soit en France aujourd'hui, on sait que parfois, il y a de la manipulation. Selon la télé qu'on regarde, BFM ou par exemple, comment ça s'appelle, CNews, l'information sur un même sujet n'est pas du tout traitée de la même manière.
La ligne
Donc ça nous paraît important de pouvoir le dire.
Est-ce qu'il y a des contraintes techniques à réaliser ce type de documentaire fiction?
Déjà, il faut avoir du matériel d'époque, c'est-à-dire des camions, des voitures, des tenues. Nous, on essaie d'être les plus justes possibles. Il faut des moyens financiers, parce que ça coûte cher. Il faut dédommager il y a des bénévoles aussi, mais il faut les déplacer, les nourrir. Il y a une équipe de techniciens professionnels. Et puis, il y a des figurants qu'on est obligé de rémunérer, parce que des fois, ils vont rester 3 jours en montagne et qu'il faut qu'ils soient investis. Il y a des contraintes techniques aussi, par rapport au fait qu'on va tourner souvent entre chien et loup, vous voyez, parce que au moment où ils se baladaient, c'était pas en pleine journée comme ça à découvert. Donc c'est beaucoup de repérage. C'est 2 ans de préparation et d'écriture pour Daniel et moi, et surtout pour Daniel, je dirais, qui fait un travail remarquable depuis le début. Et puis, il y a eu toutes ces rencontres et ces interviews qu'on a faites avec ces historiens ou ces grands témoins. Et pour nous, c'est un patrimoine qu'on ne veut pas voir disparaître. C'est pour ça qu'on l'a enregistré et qui sera à la disposition de qui le veut, aux archives ou auprès de Daniel.
Et vous avez d'ailleurs obtenu la labellisation de l'ONAC, l'Office National des Anciens Combattants, label Mission Libération de l'État. Dernière question, tout d'abord. Daniel Racanière, qu'est-ce que vous retenez? Une anecdote peut-être particulière pendant ce tournage. Alors, il n'est pas fini, bien sûr, mais qu'est-ce que vous retenez en particulier? Quelque chose que vous aimeriez partager?
Alors, ce que je voudrais partager, c'est surtout les interviews qu'on a fait auprès de gens, et de gens qui étaient érudits, notamment, et qui nous racontent, ce sont des petites anecdotes assez simples, mais notamment... À Briançon, à un moment donné, ils vont aller chercher des armes qui ont été parachutées. Et ils ont besoin de mules pour y aller, et il n'y en a pas. Et le seul mule qui est possible, en fait, c'est une jeune femme qui maîtrise sa mule complètement. Et la mule ne lui obéit qu'à elle. Et donc, elle leur dit... Je peux vous prêter ma mule, mais que si moi je viens avec vous. Et donc elle part en montagne avec eux pour récupérer les armes.
Et elle devient résistante indirectement par sa mule. Voilà. Donc la date de sortie de ce documentaire fiction, toujours en train d'être tourné, mais la date de sortie, qu'est-ce que vous allez en faire? Sortie dans les cinémas, débat, etc. Dites-nous.
Il y a une date importante.
Alors il y a une date importante.
Non, vas-y Daniel.
Alors, la date importante, c'est le 8 mai 2025, date anniversaire de la libération de la France. Ce qui nous importe, nous, c'était de ne pas nous attacher uniquement à la libération des Hautes-Alpes. Pourquoi ? Parce que, au moment de la libération des Hautes-Alpes, il y a un certain nombre de gens qui sont encore dans les camps de concentration. Et il y a encore des familles qui attendent le retour de, leur, de leurs parents qui sont encore là-bas. Donc, ça nous paraissait important de ne pas couper à 44 au moment de la libération, mais d'aller plus loin. Donc, voilà, c'est pour ça que les 80 ans nous paraissent importants. Maintenant, il y aura des avant-premières, plusieurs, puisque du moment qu'on travaille, on va certainement aussi travailler avec le lycée de Briançon. Et comme on va faire pas mal de tournages à Briançon, il y aura certainement une avant-première à Briançon avec des élèves. Et puis, sur Gap, il y aura des avant-premières aussi. Mm-hmm. Et ensuite, on va tourner dans toute la région et même plus loin pour aller faire des projections débats pour permettre, puisqu'on ne peut pas aborder le sujet de tous les résistants, pour permettre de donner une tribune à ceux dont les parents se sont sacrifiés et qui considèrent aujourd'hui que ce sacrifice est parfois un peu oublié.
Vous vouliez ajouter, Christophe Rozon?
Oui, je voudrais ajouter le fait que si on peut faire ce travail aujourd'hui, c'est aussi parce qu'on a des partenaires qui nous ont soutenus depuis le début, et en particulier la Fondation du Crédit Agricole qui a été remarquable, avec vraiment un soutien financier important, mais pas que, ils jouent le jeu, ils nous soutiennent. Il y a le département des Hautes-Alpes avec le château de Montmort et puis des élus qui se sont investis aussi pour qu'on puisse avoir des moyens. La ville de Gap, qu'on remercie parce qu'on va tourner aussi dans des lieux, on ne peut pas trop en parler pour l'instant parce qu'on pas qu'il y ait trop de monde, mais des lieux un peu secrets encore qu'il y a sur Gap. Il y a la ville de Vennes et puis l'ONAC, dont on a parlé tout à l'heure, l'Office national des anciens combattants, qui nous a accordé le label Mission Libération de l'État, vous l'avez dit, et avec l'ONAC, ben nous, on se sent soutenus, parce que ça veut dire que notre travail d'écriture, de préparation, il est reconnu comme étant sérieux.
Et vous parliez du lycée de Briançon, on rappelle que le lycée d'altitude est désormais baptisé Suzanne Joulier-Ross, du nom d'une résistante qui a compté du côté de la cité Vauban. Merci beaucoup Daniel Racanière et Christophe Rozon-Vallon d'avoir été avec nous ce matin pour parler de ce documentaire fiction qui sortira le 8 mai 2025, mais qui est en train d'être tourné dans les Hautes-Alpes sur la résistance. Merci à vous deux.
Merci.
Merci Cyrielle.